France Culture.
Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Ça s'appelle l'Académie des bienséances et on y prend des leçons pour apprendre le savoir-vivre, à ne pas faire d'erreurs irréparables d'un père majeur. Et ce, dans le but, je cite, de s'élever professionnellement et personnellement. Ce sont donc des leçons pour avoir les codes, les bons codes, les acquérir grâce à l'Académie. Mais les codes de quoi ? Les manières de qui ? Les codes de la rue pour survivre dans une cité ? Les codes du monde ouvrier pour ne pas avoir l'air de péter plus haut que son cul ? Les codes du théâtre, comme ne jamais dire le mot corde ? Vous n'y êtes pas. À l'Académie des bienséances, on acquiert les bonnes manières, point. Les seules, prétendues universelles, qu'on appelle aussi l'étiquette, qui commence à se définir à peu près à l'époque de Louis XIV. Sur le site de l'Académie, on peut d'ailleurs commencer en se procurant gratuitement un petit guide des 10 erreurs de savoir-vivre les plus fréquentes. Je vous les spoil. Par exemple, il ne faut pas dire « enchanté », il ne faut pas dire « de rien », il ne faut pas souhaiter « bon appétit », il ne faut pas offrir de fleurs ni de vin, il ne faut pas faire de bruit avec ses couverts et il ne faut pas tendre la main en premier si vous n'avez pas la préséance. Je ne sais pas vous, mais moi, là, j'ai déjà tout faux. En même temps, c'est vrai que je ne me suis pas tellement élevée. Tout de suite donc, on passe une après-midi à l'Académie avec Bérangère de Montbois, la formatrice, et deux de ses élèves. Et on se demande si on vit bien dans le même monde. Un récit de Florence de Talouette.
Pour citer Shakespeare, donc c'est ce vers quoi il faut tendre. La conversation doit être amusante et gaie, sans grossièreté, spirituelle, sans recherche ni affectation, libre, sans indécence, savante, sans pédanterie ni suffisance. Donc vous voyez, plus facile à dire qu'à faire, mais au moins, ça nous donne des lignes directrices vers lesquelles tendre.
Je m'appelle Léa, j'ai 19 ans, je suis à Saint-Cloud et j'étais dans un lycée et un collège public. À Saint-Cloud, ça va, parce qu'il y a certains secteurs où le public, on va dire qu'il n'y a pas le même cadre, mais à Saint-Cloud, en tout cas, ça allait. Et c'était des profs, on va dire, un peu à l'ancienne. Quand on est à l'école, on s'habille correctement. Pas non plus avec des robes de princesse, mais correctement, on n'avait pas le droit aux jeans troués, on n'avait pas le droit aux crop top, une tenue correcte, et puis le respect envers les professeurs qui reste la base au final. Aujourd'hui, là, je suis étudiante dans le secteur de l'immobilier, je suis en train de passer mon BTS et je suis en même temps du coup en alternance dans une agence à Courbevoie. J'ai pour but d'atteindre le haut de gamme dans les agences et je sais que au niveau des clients qui ont des exigences très grandes, c'est nécessaire d'avoir un certain comportement adapté et surtout sur mesure. C'est ce qu'ils attendent en tout cas.
Rassurez-vous. Donc j'étais en train de parler des règles générales concernant les préséances. Évidemment, les préséances n'ont rien à voir avec la valeur des personnes, hein, c'est juste une hiérarchie au sein de la société ou d'un milieu professionnel pour pouvoir savoir par exemple qui a la place d'honneur à table, qui va saluer en premier, ce genre de choses. En France, sachez que les préséances n'ont aucun rapport avec la fortune. C'est un élément qui n'entre pas en compte, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres cultures. Mais chez nous, c'est un paramètre qu'on ne prend pas en compte du tout dans la détermination des préséances. Donc par exemple, un prince sans fortune aura la préséance sur un entrepreneur très fortuné. Ça peut un petit peu dépendre des situations, et voilà. Mais pour les règles générales, on reste là-dessus.
J'aime bien cette ambiance qu'on a dans la famille. En fait, on est assez moderne, on n'est pas en 1900, je sais pas combien, où c'était très strict. Aujourd'hui, maintenant, certes, c'est présent dans notre famille, mais on reste cool. Même les anciens sont cool, ils sont conscients qu'on n'a pas eu la même éducation qu'eux. Donc oui, non, on est à peu près tous pareils. À la maison, on s'habille normalement. Après, pour les réunions de famille, parce que j'ai une grande famille qui a vécu aussi plus strictement dans ce monde-là, on avait quand même des vêtements assez jolis pour être bien tenus. Et d'ailleurs, quand on arrivait, c'était toujours, fallait qu'il y ait le waouh, elle est mignonne cette petite fille, ou elle est mignon, il est mignon ce petit garçon. En général, il y avait un dress code pour les cousinades. Et les activités qu'on faisait, du coup, c'était les adultes. Maintenant, je commence à participer un peu, mais c'était des dégustations de vin, de fromage. Je me souviens aussi d'une cousinade qui était très agréable, puisque il y avait vraiment beaucoup de monde, il y avait vraiment de la famille. Des fois, on connaît pas tout le monde, puisque j'ai vraiment une très grande famille. On avait fait un arbre généalogique avec tout le monde. On avait une petite pastille sur notre eau de couleur, si on était directement lié à la famille ou si on était mariée avec une personne de la famille. Et par rapport au dîner, au repas, etc., il y avait certaines règles à respecter. Nous, on était sur la table des enfants à cette époque-là. Et puis, c'était les personnes plus âgées qui guidaient la conversation, on va dire. Même aujourd'hui, maintenant je parle, je prends des initiatives au niveau des discussions, mais c'est toujours eux qui sont à l'initiative des questions, même de la fin de conversation. Des fois, je suis au téléphone, même au téléphone, hein, je suis en train de parler, peut-être que c'était un peu trop, je sais pas, mais à certains moments, ils me disent « Bon, bah c'était très gentil de m'avoir appelé, on se rappelle plus tard. » Mais moi, j'aurais peut-être préféré continuer, mais non. C'est eux qui décident, en fait. C'est eux qui s'imposent, c'est eux les anciens. C'est eux qu'on respecte. C'est mon grand-oncle qui organise ses grandes réceptions puisqu'elle a l'espace dans sa demeure. Il y a un très grand jardin, il y a beaucoup de chambres, donc forcément ça peut accueillir tout le monde. La dernière fois qu'on a fait une réunion de famille, c'était pour son anniversaire à mon grand-oncle justement. Et ils avaient loué une grande salle de réception. Il n'y avait pas forcément que de la famille, il y avait beaucoup de ses contacts au niveau du travail. À un moment donné dans la soirée, mon grand-oncle est venu me voir, il m'a dit « Mais je sais que tu voudrais travailler... » À ce moment-là, j'avais pas encore mon bac. Il a dit « Je sais que tu voudrais travailler dans l'immobilier. Il y a telle personne qui est là, est-ce que tu pourrais essayer d'aller lui parler ? Comme ça, tu fais connaissance, il connaît ton visage. » Donc, c'est incessable de se présenter au niveau de ces personnes-là. Puisque on n'a qu'à dire « Bah, je suis Léa, je suis la petite fille de mon grand-oncle, voilà, avec son prénom. » Et il fait « Ah oui, c'est toi, j'en ai déjà entendu parler, et puis je connais ton grand-père aussi. » Donc en fait, c'est plus simple dans ce cadre-là. Après, c'est des personnes, on ne s'imagine pas l'importance, parce que je les connais pas, l'importance qu'ils ont dans leur cadre professionnel, mais c'est plus simple dans ce cadre familial.
Nous allons pouvoir passer à notre premier petit exercice pratique et c'est maintenant vous qui allez me dire qui a la préséance sur qui et pourquoi, hein, parce qu'il ne suffit pas de donner une réponse au hasard. Hein. Alors, une femme de 38 ans et un comte de 30 ans, qui a la préséance ?
Le comte.
Eh bien, ce sera le comte. Parce que là, on est sur une différence d'âge qui est plutôt significative, mais tout simplement le fait que le monsieur ait ce titre de noblesse fait qu'il a la préséance sur la femme. En tout cas, en théorie, parfois, les hommes, par galanterie, ne vont pas suivre les préséances, et voilà. Un prêtre de 42 ans et une duchesse de 54 ans.
La duchesse.
Oui, voilà. Pourquoi ? Parce que la duchesse est un titre de la haute noblesse. Mmh. Donc sur un, entre guillemets, un simple prêtre, la duchesse aura la préséance.
Le fait d'avoir appris des codes sur la bienséance, pour mon futur, je pense que ça va m'aider. Enfin, en tout cas, j'espère. Puisque au moins, je suis sûre, en tout cas là où j'ai appris les codes de bienséance, c'est-à-dire chez Bérangère de Montbois, je sais qu'au moins il n'y aura pas d'erreur sur comment je me serais comportée et comment j'aborderai les choses plus tard. Puisque, en tout cas, par rapport à mes projets professionnels, je pense que ces coutumes auront leur place dans mon quotidien. Dans mes projets, comme je suis liée au haut de gamme, il y aura forcément des clients, comme j'ai pu voir lors de mon stage l'année dernière, qui sont très exigeants, qui eux aussi ont également ces règles de bienséance. Donc au moins qu'il n'y ait pas un creux entre mon comportement de professionnel et leur comportement de client, en fait. Je voudrais pas qu'il y ait de leur côté un point de vue de oh, elle se comporte mal, justement. Moi, j'imagine pas de mon côté avoir une grande famille. Si jamais j'ai des enfants, ce serait deux grands max, par exemple. C'est vraiment un sujet auquel j'ai pas pensé jusqu'à présent puisque j'ai que 20 ans. Mais si jamais je devais réfléchir à leur éducation, je pense que je m'appuierais aussi sur l'éducation de mes parents puisqu'elle est très simple. Il y a des valeurs qui restent, qu'on retrouve dans ma famille et qu'on retrouve dans même des personnes externes à ma famille qui sont mes amis, auxquelles j'aimerais bien qu'ils s'adaptent aussi. C'est pas des choses compliquées, c'est juste des valeurs de respect, de confiance et voilà, en fait, ça paraît normal, mais tout le monde n'a pas forcément la même éducation et c'est les valeurs que j'aimerais bien transmettre en tout cas.
L'homme porte un chapeau. Normalement, il devra l'ôter de façon à le placer du côté opposé à la personne qu'il salue. Et nous, en tant que femmes, on sera censé lui dire qu'il peut se recouvrir. Parce que normalement, quand je dis normalement, c'est selon l'étiquette, donc normalement, ce n'est pas forcément toujours suivi, on est d'accord. Il faudra donc lui indiquer qu'il peut se recouvrir. Parce que sinon, il peut rester avec son chapeau dans la main, s'il connaît les codes, justement, en attendant que vous lui disiez « Vous pouvez vous recouvrir, vous pouvez remettre votre chapeau. » Si la femme porte un chapeau lors de salutation, on ne va pas y toucher. C'est simple, on ne retire jamais son chapeau pour saluer une autre personne, que ce soit une personne qui a la présence sur nous ou pas. Au moins, c'est simple. Enchanté, ravi, tout court, on met à la poubelle et on ne soulève pas le couvercle à peau. Voilà. En règle générale, le savoir-vivre ne va pas aimer les formules raccourcies ou courtes. Et parce que aussi enchanté de faire votre connaissance signifie causer un vif plaisir à quelqu'un. Il y a aussi l'aspect envoûtement. Bon voilà, on est un peu tatillon là-dessus, il faut bien l'avouer. Enfin, je le trouve en tout cas. Et quand on rencontre une personne qu'on ne connaît pas, on ne peut pas être absolument enchanté. Bon, voilà. Donc on essaie aussi de coller à la réalité finalement et d'être sincère. Donc ravi de faire votre connaissance va être une formule correcte. La formule la plus idéale, ce sera plutôt heureuse de faire votre connaissance, ou heureux évidemment. La célébrité et le rang vont prévaloir sur l'âge et le sexe. On ne dit jamais « Bonjour messieurs, dames. Messieurs, dames, bonsoir. » Non, non et non. On met les dames avant les messieurs en France. Voilà. Deuxième exercice pratique. Vous pouvez vous passer les cartes. Il n'y en a pas suffisamment, mais on refera après. Ou alors mettez-vous par deux, peut-être, si vous voulez. Je vais vous demander de faire les présentations entre moi et un personnage fictif. Il va falloir savoir qui a la pression sur qui. Alors, oui,
allez-y. On a Paul Trin, qui a 35 ans et qui est marié et écrivain. Donc, Madame Bérangère de Montbois, je me permets de vous présenter Paul Lantrin, qui est écrivain et marié avec Madame Si elle est là.
Trop de ça.
Exemple soit compliqué pour vous, soit très simple. La poignée de main se fait paume à paume avec la main droite, éventuellement en secouant 2-3 fois à peu près, hein, de haut en bas, la main de l'autre et en regardant la personne dans les yeux. Très important. Exercice pratique.
C'est toujours bien de demander justement à une autre personne si on n'a pas la main trop molle parce qu'on s'en rend pas compte.
Encore.
Vous
pouvez
le faire.
On refait.
Voilà, là c'est mieux. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on a senti des mains molles? Pas de mains molles, c'est bon.
Bonjour.
Ça va bien?
Il faut que je sais pas si c'est parce que je suis plus jeune, mais du coup j'ai pris l'habitude d'appuyer.
D'appuyer fort. Fort aussi. Pour que ça lui aide. Pas appuyer. Je suis là. J'ai du caractère.
Eh bien, on peut repasser à table. C'est bon. Personne cherche à s'inclure dans la conversation. Combien est simplement proche de votre interlocuteur et de vous-même, regardez-la lorsque vous parlez et cherchez à l'inclure dans la discussion. Concernant les sujets de conversation, on fera avant tout attention à toujours faire preuve de tact, particulièrement avec des personnes que l'on ne connaît pas ou que l'on connaît assez peu. Et il convient aussi de veiller à intéresser les personnes avec lesquelles on converse. On peut facilement, en règle générale, parler d'art, de culture, donc tout ce qui va être théâtre, cinéma, opéra, littérature, musique, ballet, peinture, sculpture, etc. Les événements sportifs, les activités sportives, les loisirs, les voyages, tout sujet qui...
Je m'appelle Océane, j'ai 40 ans, j'habite Paris, je suis fonctionnaire et je travaille dans le milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche. J'ai grandi en banlieue parisienne, en grande banlieue, à une cinquantaine de kilomètres de Paris, dans un village assez rural dans lequel je me suis beaucoup plu. Ensuite, je suis partie de chez mes parents, j'ai continué mes études supérieures et j'ai emménagé à Paris il y a quelques temps. Ma mère était institutrice, mon père a occupé des professions intermédiaires en termes de catégories socio-professionnelles. Depuis mon enfance, je ressens cet attrait pour l'élégance, pour le beau, pour le savoir-vivre à la française. Je ressens une fierté envers ma culture, comme beaucoup d'entre nous. Ma grand-mère était couturière et ma mère a vu ma grand-mère coudre, elle a rencontré les clientes de ma grand-mère qui venaient à domicile, elle a vu toutes ces interactions qui lui ont beaucoup appris, c'était vraiment une transmission de code de l'élégance vestimentaire par rapport à la spécialisation professionnelle de ma grand-mère qui avait aussi un comportement très raffiné, qui avait vécu assez longtemps en plein cœur de Paris et ma mère me les a petit à petit transmis, ces codes, cette capacité à reconnaître un tissu de bonne qualité, savoir ce qui va bien tomber comme vêtement, savoir ce qui va être de bonne qualité, ce qui va ne pas l'être. Au sein de ma famille, la transmission s'est faite d'une part au niveau de l'élégance vestimentaire, mais également au niveau du raffinement langagier. Ma mère faisait très attention à ce que nous choisissions des termes précis, sans être dans l'excès, du moins pas pour le milieu dans lequel nous évoluions, mais elle n'hésitait pas à nous arrêter et nous préciser quel terme aurait été plus adapté dans telle ou telle formulation afin d'être plus précis, plus clair, mieux compris par notre interlocuteur. Lorsque j'ai entamé mes études universitaires à Paris et que j'ai commencé à évoluer un petit peu plus dans cette ville, que j'ai commencé à y travailler, j'ai senti un petit décalage avec mes amis d'enfance. À certaines occasions, je me souviens d'avoir salué une personne en m'exprimant, en disant « bonjour madame » ou « bonjour monsieur ». Et le code de mon milieu d'origine était de dire « bonjour ». simplement, ce qui est très bien et très poli. Mais je voyais les personnes avec lesquelles j'étais tiquer légèrement et remarquer cette différence de code et d'usage. J'avais travaillé un été dans l'entreprise de mon père. C'était un travail étudiant pendant un mois ou deux. Et je me souviens que cette entreprise, qui est une entreprise cotée au CAC 40, mettait en place des codes vestimentaires très stricts pour l'ensemble des collaborateurs et des associés. Et même au service courrier, même au service des archives, les personnes, elles devaient porter une veste au minimum et idéalement une chemise. Il n'y avait aucune obligation de cravate pour ces personnels-là. En revanche, la cravate était obligatoire pour tous les autres personnes amenées à travailler dans cette entreprise. Et pour les femmes, il n'y avait pas d'obligation de jupe, mais il était obligatoire de porter une veste et un pantalon à pinces. D'une part, ça me rassurait. D'autre part, j'ai trouvé agréable d'évoluer dans un milieu où les gens soignaient leur apparence. C'était une manière, à mon sens, de se respecter soi-même et de respecter l'autre. J'appréciais le fait de prendre un temps le soir pour choisir ma tenue du lendemain, sans être dans l'apparence, sans être en train de jouer un rôle, mais simplement trouver une tenue qui allait être suffisamment élégante pour la journée de travail. Je trouvais que c'était agréable au niveau des interactions professionnelles. Lors d'un premier poste que j'ai occupé en début de carrière, je me suis retrouvée dans des situations assez complexes où je me rendais compte que je maîtrisais certains codes de la direction et des personnes pour lesquelles je travaillais, mais à de nombreux égards, je me rendais compte que je ne maîtrisais pas d'autres codes et j'ai pu me sentir déphasée. Il y a une situation où j'avais une petite vingtaine d'années, j'étais dans le bureau de mon directeur, on était en train de discuter de certains dossiers et il reçoit un appel téléphonique. Moi, le code que j'avais appris était d'attendre patiemment qu'il termine sa conversation et de reprendre le cours de notre échange sans faire allusion à l'appel téléphonique. Lui, le code qui était en lien avec son groupe social n'était pas du tout le même. Une fois qu'il a terminé cet appel téléphonique, il m'a fait remarquer que j'aurais dû sortir pour lui laisser cet espace d'intimité professionnelle en quelque sorte. Et j'aurais attendu un petit peu plus loin qu'il vienne me solliciter à nouveau une fois cet appel terminé. Je me suis sentie assez gênée de cette situation-là. Chez le même employeur, je me suis rendu compte également que le code vestimentaire était très décontracté, c'est-à-dire que les personnes venaient régulièrement en jean, parfois en t-shirt. Le fait qu'il n'y ait pas de code un petit peu défini faisait que je me sentais un petit peu déphasée. Il arrivait parfois que j'arrive au travail avec une tenue un petit peu trop élégante par rapport à ma fonction, par rapport au milieu professionnel en lui-même. Moi, j'aurais peut-être apprécié à cette période-là avoir une ligne directrice, savoir un petit peu ce qui était attendu et comment ce style vestimentaire allait soigner les interactions sociales aussi. On voyait bien que la haute direction portait des costumes, certains portaient des cravates pour les hommes, d'autres pas. On voyait qu'il y avait quand même des codes qui étaient présents, mais c'était vraiment quelque chose de l'ordre de l'implicite. Et à ce stade de ma carrière, c'était pas évident pour moi de lire cet implicite social. Pour moi, l'élégance, c'est quelque chose de très complet dans la vie. J'ai commencé à lire, à me documenter, à explorer aussi les blogs, explorer également sur les réseaux sociaux, voir un petit peu le type de vidéos qui pouvaient être présentées. Moi, j'étais à l'époque, et je le suis encore, dans un cheminement d'amélioration, de découverte, de raffinement, de mettre de la beauté dans le quotidien. Je me souviens d'une occasion lors de laquelle j'avais rendu visite à ma belle-famille et j'avais dressé la table. J'avais comme habitude de mettre la fourchette à gauche, le couteau à droite, de placer la petite cuillère d'une certaine manière, ce qui me semblait être le code de référence pour dresser une table assez simple mais suffisamment jolie. Et je me souviens de remarques de membres de ma belle-famille à ce moment-là qui m'avaient dit que vraiment j'étais maniérée et que il y avait absolument pas besoin de s'embêter comme ça en mettant la table et que je pouvais le faire de manière beaucoup plus simple. Ça ne nous avait pas pour autant empêché de passer de très bons moments ensemble. Ça mettait juste en valeur les différences de code et le cheminement différent des uns et des autres. Mon cheminement est en cours, j'ai encore beaucoup d'améliorations à faire et... Non, à travers les ateliers dans lesquels je me suis engagée, je vais continuer à apprendre, en particulier autour de l'art de recevoir, l'art d'être reçu. Tous ces enseignements, on me les avait partiellement transmis et aujourd'hui, je pense qu'il est intéressant de les étudier de manière plus précise pour me les approprier aussi et savoir s'adapter aux différentes situations. C'est surtout ça qui prime. Et justement, je trouve que passionnant de continuer à affiner les termes que j'emploie, affiner ma conversation. Ça ne me coûte pas de me tenir droite, ça ne me coûte pas d'employer certains termes peut-être un petit peu plus précis à la place de termes peut-être plus communs. C'est un cheminement qui est plus de l'ordre de l'implication personnelle.
C'est aussi ça finalement les bonnes manières de chercher sans cesse à s'améliorer. On sait très bien qu'on ne sera jamais parfaite, qu'on sera parfois maladroite, ça m'arrive à moi hein, évidemment. Mais vous voulez aller plus loin parce que vous savez qu'on peut toujours apprendre plus de choses sur n'importe quel sujet. J'ai passé 3 jours à former 2 futures hôtesses. Et je disais en rentrant à mon fiancé, mais c'est reposant en fait d'être avec des personnes comme ça parce que elles sont tellement polies que c'est tellement agréable d'être avec elles, c'est même énergisant en fait.
C'était Les Bonnes Manières, un reportage de Florence de Talouette réalisé par Anne-Laure Chanel et mixé par Dali Yaha. Merci beaucoup à Bérangère de Montbois, à Léa, à Océane et à Fadoua, l'attachée de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire, c'est Luce Mourant.